Il est justifié en un certain sens, oui, parce que il n'est pas très courant qu'un certain groupe d'États plus petit que l'ensemble se voit pour mettre des choses en commun. On a vu, par exemple, de temps en temps, les pays du Benelux se réunir et arrêter une position en commun, mais dans la mesure où ils forment une union douanière qui est acceptée depuis les origines, ça ne heurte pas vraiment. Mais quand ce sont les trois plus gros qui se mettent ensemble, ça crée tout de suite le soupçon qu'il y a une tentative de créer une espèce de directoire au sein de l'Union européenne.
Mais d'un autre côté, la volonté d'hégémonie de Paris et Berlin fait peur. Alors le fait que la Grande-Bretagne s'y associe, cela aurait pu rassurer les pro-atlantistes comme les Polonais et les Espagnols, par exemple.
Oui, ça c'est un autre aspect de cette réunion, c'est que ça rompt un peu avec la rupture, pas tout à fait réelle, mais la rupture potentielle qu'on avait pu voir entre le couple franco-allemand d'un côté et le Royaume-Uni de l'autre. Le Royaume-Uni a fait un certain nombre de signes importants depuis la crise irakienne, indiquant sa volonté de se rapprocher du couple franco-allemand et de trouver une position commune. Ceci prolonge ce rapprochement progressif, sauf que dans les étapes antérieures, la fin de l'automne 2003, la Belgique et le Luxembourg y étaient associés, ce qui pouvait faire taire les soupçons de ceux qui craignaient que ce soit un directoire des grands. Ici, on retrouve simplement les trois grandes.
Quand le ministre italien des Affaires étrangères affirme que le triumvirat ne servira que des intérêts nationaux et nuira à la construction de l'Europe, est-ce qu'il a raison à votre avis?
Il a sans doute en partie raison, c'est-à-dire que c'est sûrement ça qu'en grande partie cherchent les trois grands États, c'est-à-dire les grands pays se sentent un peu comme Gulliver noyé par les Lilliputiens et cherchent à retrouver une forme de leadership. Certes, l'Italie est grande et certes, l'Italie a été un grand élève européen pendant des décennies, mais il n'en reste pas moins que les principales grandes décisions qui se sont prises dans l'Union depuis toujours l'ont été par les trois grands. Donc ça rentre aussi dans ce cadre d'une recherche sans doute d'un leadership nouveau.
Alors, il y a ceux qui craignent la domination d'un directoire, mais il y a aussi ceux qui craignent le blocage des décisions. Est-ce que vous pensez qu'un moteur se révélera indispensable à 25 pour simplifier les procédures?
Ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'intégration européenne lorsqu'il s'agit d'avancer au-delà du statu quo. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un moteur quand il faut prendre simplement des décisions dans les matières qui sont bien établies, donc des décisions législatives ordinaires. Dès lors qu'on veut lancer de nouvelles coopérations ou approfondir des coopérations qui existent, il a toujours fallu que quelques États prennent un peu l'initiative. Alors ça a souvent été le couple franco-allemand, mais pas exclusivement. Le Portugal a joué un rôle important sous sa présidence et après sa présidence. Donc il n'y a pas de monopole des grands États sur cette fonction de relance en quelque sorte.
L'élargissement, c'est dans 2 mois et demi à peine, ça n'a pas l'air simple.
L'élargissement n'est pas un phénomène indolore, non seulement parce que ces nouveaux entrants ont un produit intérieur brut qui est nettement inférieur à celui des membres actuels, donc ça pose des tensions budgétaires, non seulement parce qu'ils ont une histoire qui a longtemps été séparée de celle des pays d'Europe occidentale, mais aussi pour cette question de taille.
Est-ce qu'on pourrait imaginer un fonctionnement comme celui du Conseil de sécurité de l'ONU avec des membres permanents et des membres tournants?
Je crois que ce n'est pas possible dans le cas de l'Union européenne parce qu'historiquement, on a donné beaucoup de garanties aux petits pays. On leur a donné un commissaire comme on a donné un commissaire aux grands, qui en avait deux. On les a surreprésentés dans le vote à la majorité qualifiée. On les a surreprésentés au sein du Parlement européen. Ça aurait peut-être été envisageable aux origines et certains envisagent encore aujourd'hui que les petits pays forment des groupes de pays qui auront en permanence un représentant, mais seulement à 3 ou 4 au sein de la Commission, par exemple, comme cela se fait non seulement aux Nations Unies, mais aussi à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international. Je crois que les petits pays ont historiquement reçu tellement de garanties qu'ils n'accepteront plus, au stade actuel, un compromis comme celui-là.